Alors, ce matin, nous allons parler de Jésus-Christ. Alors, nous en avons déjà beaucoup, beaucoup parlé, puisque c'est l'approche de Noël. Mais aussi, je n'ai pas choisi ce texte uniquement pour l'Avent. C'est une réflexion qui m'accompagne ces derniers temps. On dit dans ce verset qui est issu d'un Corinthien, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. » On l'utilise beaucoup chez les Ménonites, hein, c'est sur la première page de Christ seul, et c'était le verset qu'aimait beaucoup Méno Simon. Mais quel est Jésus-Christ? En quel Jésus-Christ croyons-nous? Tous les chrétiens suivent Jésus-Christ. Même les musulmans croient en Jésus-Christ, que Jésus, en Jésus, pas Christ, pardon, croient en Jésus. Mais nous, quel Jésus suivons-nous? Et c'est cette question que Jésus a posée à ses disciples. Ses disciples revenaient en disant, oui, certains disent que tu es un prophète, certains disent ça. Et Jésus leur a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors je vous pose cette question. Qui est Jésus pour vous? Alors il y a plein de réponses, il n'y en a pas de fausses, enfin je pense pas. Voilà, donc allez-y, qui est Jésus pour vous?
Dieu.
Dieu, fils de Dieu.
Dimanche dernier, pardon.
Consolateur.
Dimanche dernier, c'est un ami.
Un ami. Oui, il l'a dit à ses disciples, hein, je vous appelle ami.
Un frère.
Un
frère.
Le sauveur. Le sauveur. Alors, voilà. Il y a tout ça. Et encore, j'en ai oublié. Hein. Voilà, j'ai pris ma concordance et j'ai regardé dans les évangiles ce qui était dit de Jésus. Alors, il y a des couleurs un peu par thématique, mais c'est pas très grave. Mais il y a certaines choses qui le relient directement à Dieu. Christ, Seigneur, Messie, Sauveur. Il est Dieu, Fils de Dieu. Il y a des choses qui le relient à son humanité. Il est appelé homme, fils de l'homme, et dans les épîtres, le nouvel Adam aussi. Il y a des choses liées à, j'allais dire, à ce qu'il a au plus profond de lui, plutôt les qualités qu'il a au plus profond de lui et qu'il incarne pleinement, le pardon, la vérité, la vie, l'amour. Il est des choses peut-être plus du domaine de la religion, mais prophète, enseignant, serviteur, souverain sacrificateur, chef de l'Église, maître, agneau immolé, il a fait des miracles. Il a aussi des choses auxquelles il a été comparé. Il parlait de lui comme le pain de vie, le bon berger, la lumière du monde, la porte, la parole, la résurrection. Tout ça, ça qualifie Jésus, et j'en ai oublié, parce que chaque fois, voilà. Parce que dans les textes qui ont été lus ce matin, il y en a encore beaucoup qui ont été dits. C'est vrai, je suis plus partie des évangiles, mais si on avait pris Ésaïe, on aurait le Consolateur, le Prince de la Paix, enfin. Voilà, toutes ces choses, c'est Jésus. Et je vous invite. Ah, j'ai cliqué à côté, pardon, je vais y arriver.
Il faut y aller là.
Faut que je. Oui, non, mais c'est. Voilà. Il y a une confession de foi que l'on connaît bien, enfin que beaucoup connaissent, qui s'appelle aussi le Credo, qui est un peu une confession de foi des premiers siècles et qui est beaucoup utilisée par les protestants pour décrire Jésus. Je crois en Jésus-Christ. Son Fils unique, donc Fils unique de Dieu, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. On retrouve beaucoup de choses qu'on a dites. Fils de Dieu, Seigneur, Seigneur, ça veut dire quelque chose, c'est qui a une autorité, en qui on doit aussi, à qui on doit se soumettre. Il est né de la Vierge Marie, donc il est venu sur terre, c'est ce que nous célébrons à Noël. On parle ici de sa souffrance, où il est le serviteur souffrant, qui est mort et ressuscité. Et maintenant, il est aux cieux, il siège à la droite de Dieu. Et il aura aussi une mission de juger. Donc là, on voit beaucoup de choses là-dedans, mais il y a peut-être quelque chose qui vous marque. Alors ceux qui ont fait le Binnendal ont peut-être déjà entendu ça, non ? Alors je le montre là, c'est juste la virgule. Non, c'est pourquoi je montre la virgule ? Parce qu'on dit il est né sous la Vierge Marie, donc ça c'est Luc 2. Il a souffert sur Ponce Pilate, c'est Luc 20 et quelques. Mais tout le reste au milieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Toute sa vie sur terre, son enseignement, ses miracles, les rencontres qu'il a faites. Est-ce que ça ne caractérise pas Jésus ? Et c'est vrai, parfois, dans certaines conceptions de Jésus, on le voit, certains le voient que bébé, et oublient, voilà, c'est une bonne nouvelle bébé. Certains le voient que grand Dieu, maître. Mais il est aussi cet homme qui a vécu sur terre. Et à l'inverse, quand je vais au culte le dimanche matin, souvent j'écoute la radio catholique et il y a quelqu'un qui commente l'évangile. Et cette personne, il parle tout le temps de Jésus de Nazareth, de ce qu'il a fait, tout ça. Et un coup, il a dit, oui, mais Jésus de Nazareth, il n'aurait pas aimé qu'on l'appelle Messie et Christ. Alors là, je me suis dit, oula, autant je le rejoins sur « faut pas oublier Jésus de Nazareth ». Mais par contre, Jésus s'est reconnu comme le Christ quand il accomplit, à chaque fois qu'il cite les prophéties comme on les a lues ce matin, c'est lui qui est. Donc Jésus est à la fois cet homme qui a vécu, qui a accompli des choses fabuleuses sur terre, mais il est aussi ce Christ Seigneur Messie. Alors il y a une autre confession de foi. Alors c'est un peu facile ce que je fais, parce qu'une confession de foi c'est fait pour être un résumé dit ensemble. Donc un résumé on ne peut pas tout mettre, hein. Donc vous allez me dire, ouais c'est un peu facile, forcément il n'y a pas toutes les notions. Mais c'est pour un peu nous faire réfléchir, hein. C'est pas une critique par rapport aux textes qui sont écrits, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de valeur. C'est plus un élément de réflexion, hein. Donc le PNEF c'est « Nous croyons en Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu manifesté en chair, né de la Vierge Marie, à son humanité exempte de péché, ses miracles, sa mort expiatoire et rédemptrice, sa résurrection corporelle, son ascension, son œuvre médiatrice, son retour personnel dans la puissance et la gloire. » Donc là, on trouve l'humanité. Alors il y a beaucoup de mots compliqués, hein, quand en le lisant là. On retrouve son humanité. On retrouve aussi qu'il a vécu cette humanité tout en étant exempt de péché, sans péché. On parle de ses miracles, de son action sur terre. On parle là aussi de sa mort en lui donnant un sens aussi d'expiation, de rédemption, c'est-à-dire de pouvoir pardonner les péchés, de prendre à la place des autres le péché. Et rédemptrice, c'est dans le sens où lui, en ressuscitant des morts, a apporté aussi la possibilité de revenir à la vie aux autres. Et son œuvre médiatrice, c'était de créer du lien, de faire le lien à la fois entre Dieu et les hommes, et peut-être aussi entre les hommes entre eux. Alors voilà pour ces définitions. Mais c'est vrai qu'ici, ben voilà, on parle de la vie terrestre, mais on ne parle toujours pas de l'enseignement et des rencontres de Jésus. C'est une orientation qui est peut-être plus sur les miracles. Et je ne dis pas qu'elle est pas bonne, mais c'est pour, voilà, suivant la manière dont on parle de Jésus, on met l'accent sur certaines choses plus que d'autres. Et on oublie que Jésus, c'est tout à la fois. Jésus n'est pas seulement le Jésus de Nazareth, de l'Évangile, mais il est le Fils de Dieu, présent tout au long de l'histoire, de la première création à la nouvelle création. Il était présent au premier jour. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et tout a été fait par elle. En elle était la vie. Oui, Jésus, la parole, est celui qui permet à Dieu de transformer ses intentions en choses concrètes. Dieu, par sa parole, a dit que la lumière soit, et la lumière a été. Et c'est un peu pareil dans le Nouveau Testament. Dieu avait un projet pour l'humanité et c'est par Jésus qu'il l'a accompli. Jésus est le Messie annoncé et attendu tout au long de l'Ancien Testament. Il est le Jésus des Évangiles, fait homme, sans péché, tenté, guérissant, faisant des miracles, annonçant le royaume de Dieu, enseignant comment vivre en société. Il est le sacrifice. Il est le serviteur souffrant, mort pour nos péchés. Il est le Rédempteur, ressuscité le premier. Il est le Seigneur, le Sauveur, le chef de l'Église, celui qui a vaincu la mort définitivement, qui règne auprès de Dieu pour l'éternité, l'agneau de l'Apocalypse, comme on l'a chanté tout à l'heure. Alors, voilà, j'ai repris certains de ces éléments. Alors, je vous rassure, je ne vais pas reprendre les 40 de la première diapo. Hein, voilà. Mais certains de ces éléments pour voir ce que ça veut dire de dire que Jésus est le Christ, que Jésus est prophète, que Jésus est enseignant, etc. Dire que Jésus est Christ Messie, c'est à la fois reconnaître qu'il accomplit l'Ancien Testament, les promesses données au peuple d'Israël. Jésus est aussi venu pour Israël. Il est aussi le Messie du peuple d'Israël. Et en même temps, c'est reconnaître qu'il est celui qui amène une nouvelle alliance, une nouvelle relation entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'on parle de Nouveau Testament, une nouvelle alliance, en donnant la possibilité même aux non-juifs de s'approcher de Dieu. Christ et Messie, c'est ce rôle d'accomplissement et en même temps de changement pour l'alliance, le lien entre Dieu et les hommes. Dire que Jésus est prophète, c'est reconnaître qu'il est venu proclamer la venue du règne de Dieu et pendant tout son enseignement, il disait « Le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est déjà là, changez !» Il a appelé chacun à la repentance. Il y a Jean-Baptiste qui faisait ça en disant « Changez, convertissez-vous ». Et Jésus, dans ce prolongement, a aussi amené chacun à se poser la question de sa relation avec Dieu, de sa relation au péché. Et nous invite tous à changer, à évoluer et à savoir que le règne de Dieu est proche. Il est aussi enseignant de la sagesse divine dans le sens où il nous révèle la personne de Dieu comme un Père aimant. Il est l'image de Dieu, il est Dieu lui-même et il est l'image de Dieu. Dans sa manière d'être avec les hommes, sur terre, il a été comme Dieu souhaite être avec les hommes, quelqu'un qui aime. Et il a appelé Dieu notre Père en enseignant aux disciples à dire « Notre Père », c'est une révolution par rapport à un peuple juif qui pouvait même pas prononcer le nom de Yahvé, c'était interdit. Et là, il leur dit non, Dieu vous aime, comme un père aime ses enfants, vous pouvez l'appeler notre père. Et il leur a fait aussi connaître la volonté de Dieu aux hommes quant à leur conduite. Tous les enseignements qu'il donne, pardonnez, aimez, réconciliez-vous, accueillez-vous les uns les autres. C'est la volonté de Dieu par rapport aux hommes. Il y avait les 10 commandements, il y avait le Lévitique, et qui sont précieux. Mais Jésus montre dans son enseignement, encore plus loin dans sa manière d'être, ce que ça veut dire au plus profond, que ce ne sont pas que des choses à réciter, ça ne suffit pas de dire tu ne tueras pas, c'est si tu n'aimes pas ton frère, si tu traites ton frère d'imbécile, tu es déjà dans le sens du meurtre vers ton frère. Il allait encore au plus loin. Et Jésus a accompli ça, nous a montré qui était Dieu et l'amour de Dieu pour nous. Il est aussi le souverain sacrificateur. Donc, souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, les hommes n'avaient pas le droit de voir Dieu. Ils mouraient s'ils voyaient la face de Dieu. Seul le souverain sacrificateur avait le droit, une fois par an, d'entrer dans le lieu très saint. Et encore, on lui attachait une ficelle au pied pour que si toutefois il lui arrivait quelque chose, on puisse le retirer sans qu'un autre ait besoin de rentrer dedans. Et là, Jésus, il a joué ce rôle, mais il allait plus loin. Il a eu cette relation avec Dieu, et en mourant et ressuscitant, il nous donne accès à Dieu directement. Alors j'ai un ami de l'église de Lunéville qui disait, mais c'est fou, dans l'Ancien Testament, c'est lui qui m'a rappelé l'histoire de la ficelle, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas voir Dieu. Il a dit, mais maintenant on peut le voir parce que Dieu nous voit à travers Jésus-Christ. Quand il nous regarde, il y a Jésus-Christ qui est entre les deux et il nous voit à travers le visage de Jésus-Christ. Dans ce sens-là, il a accompli le rôle de sacrificateur. Et il a aussi le rôle, un sacrificateur, c'était quelqu'un qui priait pour le peuple. Et Jésus a prié pour nous. Et il continue de le faire, c'est marqué dans les épîtres. Mais il l'a déjà fait, si vous lisez Jean 16, Jean 17. Jésus a prié pour ses disciples. Et il a dit, et c'est pas seulement pour vous que je prie. Je prie pour tous ceux qui croiront. Donc Jésus a prié pour nous dès les premiers siècles et il continue d'intercéder pour nous. Il a payé les péchés pour nous et il prie pour nous. C'est ça que ça veut dire quand on le voit comme un souverain sacrificateur. Il est aussi le roi. Roi, il l'a été pleinement et il l'est pleinement. Tout est sous ses pieds. Il est Dieu, il a l'univers sous ses pieds, il aurait pu faire ce qu'il voulait, mais il a choisi le chemin de la croix. Et en ce sens-là, il a révélé le caractère de serviteur du Dieu Tout-Puissant, prêt à s'abaisser pour sa créature. C'est incompréhensible. Quel est le roi qui va se mettre à genoux pour laver les pieds de ses serviteurs? Eh bien, Jésus l'a fait. Pour montrer un exemple, pour dire, c'est pas parce que je suis roi que je vous aime pas au point de venir m'abaisser jusqu'à vous. Jésus, c'était aussi un prédicateur, un enseignant, un guérisseur. Et dans sa manière d'être sur la terre, il a apporté le pardon et la paix à tous. À tous, pas seulement aux bons chrétiens, sauf qu'à l'époque on disait plutôt les bons juifs, voilà, assaut. Non, il est venu l'apporter à tous. Il a apporté le pardon à la femme adultère. Il a mangé dans la maison de Zachée et de Lévi pour apporter le salut dans cette maison. Je crois que c'est à Zachée qui dit aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison. Il a été vers des étrangers. Il y a Jaïrus qui est venu le chercher, lui qui est un ennemi d'Israël, même si c'était quelqu'un qui croyait en Dieu, mais il était quand même l'ennemi, l'envahisseur, il représentait l'ennemi. Et Jésus est allé vers lui, apporter la paix et le pardon à tous. Il a appelé ses disciples à vivre le royaume de Dieu. Et ça c'était un changement en profondeur. Dire heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont rejetés, c'est un changement total de valeur. Et il a appelé ses disciples à vivre suivant ces nouvelles règles. Il a posé les bases d'une nouvelle communauté de foi en choisissant quelques disciples, puis de plus en plus large, et en disant que le salut n'était pas réservé à une élite, mais à tous ceux qui croyaient. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit, prend en lui et la vie éternelle, ne périsse pas, mais la vie éternelle. C'est tous, c'est plus seulement une élite, c'est plus seulement une génération de génération en génération suivant le sang, c'est suivant l'esprit. Tous ceux qui croient en lui peuvent rentrer dans cette communauté de foi. Et bien sûr, on le sait, et je ne sais pas si c'est le plus important, en tout cas ça c'est la face sans laquelle il n'y aurait rien, tout le monde, voilà. Il est venu, il a versé son sang et donné sa vie. Il a porté les péchés du monde, lui qui était sans péché, a porté tout le mal de l'humanité sur ses épaules. Sur la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc il est allé jusqu'à là, jusqu'à renoncer à tout pour porter nos péchés, pour donner sa vie. Serviteur souffrant, et c'était pas une mort tranquille hein, dans son lit, c'était frappé, c'était cloué sur une croix. Et par cela, il nous a réconciliés avec Dieu. Il a recréé tout ce qui était rompu. Il a permis la réconciliation avec Dieu. Et bien entendu, il est ressuscité. Il a vaincu la mort pour toujours. Alors on va dire, mais oui, mais il y a encore des gens qui meurent. Mais cette mort qui est actuelle n'est plus définitive. Et on sait que le moment viendra où il n'y aura plus ni mort, ni larmes, ni deuil. C'était Claude Bécher qui prenait souvent cette image de la Deuxième Guerre mondiale en disant, il y a eu le jour du débarquement, où tout le monde savait que la guerre allait être finie, mais la victoire est arrivée que plus tard. Donc effectivement, on est peut-être dans cette phase où, oui, Jésus est ressuscité et a vaincu la mort. Mais encore, le diable continue à se débattre en se disant, ouais, je vais peut-être quand même m'en sortir, et c'est pour ça qu'on souffre encore. Mais la victoire et le retour définitif de Jésus sont proches, et nous y croyons et nous sommes convaincus qu'il a vaincu cette mort, désarmé les puissances du péché et du mal, et qu'il est le sauveur du monde. Et en même temps, sauveur du monde, et un homme ayant subi la tentation et la souffrance. Il a partagé notre humanité. Il n'a pas eu une petite vie tranquille. Il n'est pas non plus resté quelqu'un de lisse ou qui ne s'est pas mouillé, qui est resté dans son temple, un moine exilé ou je ne sais quoi. Non, il a vécu pleinement l'humanité. Il a fréquenté toutes les personnes qui les entouraient, j'ai déjà dit, des gens de toutes sortes, hein, des religieux, des non-religieux, des étrangers, des pêcheurs, des gens de mauvaise vie. Et malgré ça, il est resté sans péché. Il a pris position. Il aurait pu simplement se taire. Non, il a pris des positions fermes en dénonçant le mal, mais aussi en encourageant au bien, en disant le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu, mais c'est aussi d'aimer son prochain comme soi-même. Il a aimé ceux qu'il faisait souffrir et il n'a pas résisté violemment. Il aurait pu se rebeller, il était Dieu. Il aurait pu descendre la croix, il aurait pu envoyer des armées d'anges pour le défendre. Non, il a choisi de ne pas résister violemment et d'accepter son sort. Il a pardonné sur la croix, agonisant. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tout au long de sa vie, il a entretenu une relation intime avec Dieu, qu'il appelait Père. Tous les jours, il le priait, il prenait du temps pour être avec son Père. Et il a appelé ses disciples frères. Il aurait pu les appeler disciples, hein, serviteurs. Non, il a dit, vous êtes mes frères, mes amis. C'était l'être humain dans toute sa perfection. Il nous a montré ce que Dieu attend de l'être humain. Notre rôle, enfin, l'être humain parfait, l'être humain qui est pleinement accompli, c'est celui qui a une relation intime avec Dieu, qui vit une relation avec ses frères, qui aime les autres, qui pardonne et qui reste sans péché. Alors je vais les dire autant que possible parce que nous sommes bien plus imparfaits que Dieu. Mais voilà, le plan de Dieu pour l'humanité, c'était ça, c'était que tous les hommes soient comme ce que Jésus nous a montré. Et on en est tellement loin, mais lui, il nous a montré ce que c'était. Et homme, et en même temps fils de Dieu. Alors, ça nous dépasse au-delà de toute imagination. Fils de Dieu, il habite toute la plénitude de Dieu, il est pleinement Dieu, il est en relation intime avec lui. Il a tout le pouvoir que Dieu a. Il est l'image du Dieu invisible, il nous a montré sur terre ce qui était Dieu. Et il a été présent dès le début, il a tout créé, il a tout accompli. Pleinement homme et pleinement Dieu. Je vais vous lire un extrait de la confession de foi. Nous reconnaissons que Jésus est le Fils unique de Dieu, la parole de Dieu incarnée. Il a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie, parfaitement homme et tenté comme nous, cependant sans péché. Il est l'être humain dans toute sa perfection. Parfaitement divin, il est celui en qui habite toute la plénitude de Dieu. Lors de sa vie terrestre, Jésus entretenait une relation intime avec son Père Céleste et il enseignait ses disciples à prier en disant « Abba, Père !» Il est l'image du Dieu invisible. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, car il est avant toute chose. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est la tête de l'Église qui est son corps. En tant que membre de son corps, nous sommes en tant que Christ. Et Christ habite en nous. Dynamisée par cette relation personnelle avec Christ, l'Église poursuit son œuvre de miséricorde, de justice et de paix dans un monde déchu. Nous adorons Jésus-Christ comme celui que Dieu le Père a souverainement élevé et fait Seigneur de tous. Il est notre Seigneur et sera le Seigneur du monde, bien qu'il n'ait pas encore été reconnu comme tel. Nous vivons dans la certitude qu'il reviendra et que par lui toute l'humanité sera jugée. Il est celui que tout le monde reconnaîtra comme souverain, l'agneau qui régnera au siècle des siècles. Et je vous invite à lire Philippiens 2, qui nous rappelle qui est Dieu, mais qui nous dit aussi ce qui est attendu de nous. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui était de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, on a vu condition divine, égalité avec Dieu, serviteur, semblable aux êtres humains, obéissant jusqu'à la mort, élevé, Seigneur. Et en ce qui nous concerne, voilà ce quoi nous sommes appelés. Alors il n'y a que deux choses soulignées, mais ça induit tellement de choses. Que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. On a dit que Jésus-Christ, par sa manière de vivre, était l'être humain parfait dans toute sa plénitude, et nous sommes appelés à être comme lui. Alors lui, il était de condition divine, nous, on ne l'est pas, donc on a encore... Si lui, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à garder à tout prix, alors nous, on n'est même pas égaux avec Dieu, donc on peut laisser notre orgueil de côté. Et nous sommes invités à faire comme lui, à nous dépouiller en prenant une condition de serviteur, à faire preuve d'obéissance, c'est ce qu'il a fait. Nous sommes invités à avoir une attitude qui ressemble à celle de Jésus-Christ, dans sa manière de voir les autres, d'être avec eux. Et nous sommes aussi invités à reconnaître que Jésus est le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Avant de lire la dernière diapo, je vous invite peut-être à prendre une minute de silence pour que vous puissiez réfléchir. Qui est Jésus pour vous? Et qu'est-ce que cela veut dire pour votre vie? Est-ce qu'on a mis trop le curseur sur uniquement Jésus Seigneur? Est-ce qu'on a mis trop le curseur sur uniquement Jésus humain? Est-ce que, voilà, et d'avoir cette vision d'ensemble, qu'est-ce que ça change pour nous? Donc je vous propose un petit temps de silence. En attendant, j'ai posé les yeux sur la confession de Paul et il y a un commentaire qui dit « Nous ne devrions privilégier ni son humanité, ni sa divinité. Négliger la divinité de Jésus affaiblit irrémédiablement son œuvre de salut. Négliger l'humanité de Jésus affaiblit son incarnation et déséquilibre notre spiritualité et notre témoignage en favorisant le retrait hors du monde. » Nous sommes des pécheurs sauvés, mais nous vivons encore dans cette humanité. Et je vous invite pour conclure à lire. Alors, la confession de foi, voilà le résumé de la confession de foi sur les églises mennonites. Elle est pas parfaite non plus, hein, c'est aussi un résumé. Hein, donc, on ne voit pas. Mais nous croyons en Jésus-Christ. La parole de Dieu incarnée. Il est le sauveur du monde qui nous a délivrés de la domination du péché. Il nous a réconciliés avec Dieu en s'humiliant lui-même et en s'en obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il a été reconnu fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Il est le chef de l'Église. Le Seigneur exalté, l'agneau immolé qui reviendra pour régner avec Dieu dans sa gloire. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ.